Aujourd'hui, le podcast portera sur le Bitcoin. Il est donc important de garder en tête que tout ce qui sera discuté le sera à titre d'opinion personnelle et qu'en aucun cas le contenu ne peut être considéré comme des conseils financiers. Pour tout besoin, contactez un professionnel. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Rendez-vous au sommet, le podcast pour les entrepreneurs, pour toutes les personnes qui veulent du succès. Puis aujourd'hui, je suis en compagnie de Gabriel Lizotte, spécialiste en crypto, particulièrement le Bitcoin. Comment ça va, Gab?
Ça va super bien, toi.
Ça va super. Merci d'avoir accepté l'entrevue pour parler de Bitcoin, justement, un sujet quand même en feu dernièrement. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais parler un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas de ton parcours, comment tu t'es ramassé dans les cryptos, à travailler avec tout le Bitcoin, etc.?
Moi, dans le fond, c'est pas compliqué, comment dire, quand j'étais plus jeune. J'ai tout le temps été quelqu'un de plus qui s'intéressait aux choses qui n'est pas selon la norme. J'étais un décrocheur, premièrement. J'étais vraiment quelqu'un qui, tout ce qui était devenait plus autonome, indépendant, ça m'intéressait. Fait que quand j'étais plus jeune, je suis tombé dans toutes sortes d'affaires. Ensuite, là, j'ai un ami qui m'avait parlé du Bitcoin. Au début, j'ai fait comme pas mal n'importe qui. J'ai réagi en disant que c'est quoi ça? C'est de l'argent Monopoly. Finalement, ben, quelques mois plus tard, j'ai vu le prix quand même monter. J'ai commencé à plus m'y intéresser. J'ai commencé à investir. Ça, c'était dans la bulle de 2017. La première bulle qu'on a. Ben, c'est pas la première bulle, mais c'est la première bulle publique qu'on a connue. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à investir à ce moment-là. Ensuite, il y a eu un moment quand même plus hardcore, comme quoi le Bitcoin a commencé à descendre. Et à ce moment-là, j'ai commencé, la plupart des gens ont comme abandonné le Bitcoin. Moi, c'est à ce moment-là que je me suis lancé encore plus en ligne, je me suis intéressé, puis que j'ai commencé à offrir certains services pour les personnes qui désiraient soit avoir la possibilité d'acheter ou de vendre du Bitcoin en toute sécurité. Donc, j'ai quand même j'avais un bon réseau contact, donc j'ai commencé à faire le lien entre vendeur et acheteur. Ensuite, je me suis dit pourquoi pas aussi offrir de la consultation et de la formation pour les personnes qui désirent débuter dans le domaine. C'est pas quelque chose que, honnêtement, je focus à 100% pour ce qui est de la formation, de la consultation, étant donné que moi, je focus plus sur le trading ou sur faire le référencement entre un vendeur et un acheteur. Pour consultation, je le fais pareil. Mais étant donné que je vis quand même sur une petite île tropicale, que je suis bien, je préfère souvent profiter de mes journées plutôt que tout le temps travailler. Le but dans la vie, c'est pas toujours travailler. Si je commencerais à toujours donner des formations sans arrêt et des consultations, ben finalement, ça me servirait à rien d'être dans le Bitcoin.
Ouais, c'est ça, parce que ça peut être quand même, tu sais, l'opportunité que le Bitcoin peut apporter. Je pense qu'il y a de la liberté qui vient avec ça, puis c'est probablement une des choses que la plupart des entrepreneurs recherchent. Puis.
Exact. Moi, c'est vraiment ça qui est venu me chercher, le côté libertarien, d'une monnaie décentralisée. Une monnaie qui est pas sous le, comment dire, c'est pas le gouvernement, c'est pas la banque qui contrôle le Bitcoin, c'est vraiment décentralisé. Quelqu'un qui décide d'être actif à temps plein dans le Bitcoin, disons qu'il préfère avoir un portefeuille Bitcoin plutôt qu'un compte bancaire, va avoir beaucoup moins de restrictions au niveau de ses transactions. Seul désavantage, c'est la volatilité parfois. Il y a des crypto-monnaies qui sont stables. Donc, on peut aussi avoir d'autres crypto-monnaies qui font en sorte qu'on joue pas avec la volatilité de notre portefeuille.
Ben c'est ça, justement, pour les gens qui écoutent, là, on s'entend, c'est pas tout le monde qui est dans les crypto-monnaies présentement. Ça serait quoi un peu, comment est-ce que quelqu'un pourrait se retrouver dans la crypto en général? C'est quoi la différence, le Bitcoin, les altcoins, etc.? Comment est-ce que les gens peuvent se retrouver dans tout ça?
Pour bien résumer ça d'une façon très simple et, si on veut, d'une façon grossière, ça soit que le Bitcoin, c'est comme l'or digital 2.0. C'est vraiment la valeur refuge, le store of value de la cryptosphère. C'est-à-dire que le Bitcoin, c'est le numéro un, c'est le premier, et c'est la valeur, comment dire, la plupart des traders, pas les nouveaux traders, mais plus les anciens traders, quand ils font du trading, ils veulent accumuler des satoshis. Un satoshi, c'est une unité de mesure qui est dans le Bitcoin. Il y a 100 millions de satoshis dans un Bitcoin. Donc, les gens, quand ils tradent d'autres crypto-monnaies, ils veulent accumuler des satoshis. Donc, le Bitcoin, c'est vraiment la valeur refuge. Ensuite, les autres crypto-monnaies qui sont considérées, selon moi, un peu plus comme des actions à la bourse, si on veut, c'est, on peut dire, Ethereum, XRP, Litecoin, c'est des crypto-monnaies qui sont quand même, ils ont un gros market cap. Ils ont beaucoup d'argent impliqué dans leur crypto. Ils sont là depuis quand même plusieurs années. Donc, on peut dire qu'ils sont quand même crédibles comme crypto. Puis tu as d'autres crypto-monnaies qui sont plus comparables à des penny stocks. On les appelle souvent des shitcoins. Dans le fond, tu as les autres crypto-monnaies qui sont pas le Bitcoin, c'est des altcoins. Et tu as les shitcoins. C'est des crypto-monnaies qui n'ont pas vraiment d'avenir, qui n'ont pas vraiment de projet derrière eux. Oui, on peut faire de l'argent avec ces crypto-monnaies-là. Présentement, on peut voir plusieurs gens parler de deux principalement, de Dogecoin et de SafeMoon. C'est deux crypto-monnaies que, selon moi, c'est des total shitcoins. Dogecoin, un peu moins pire que SafeMoon. Dogecoin est quand même là depuis plusieurs années, sauf que, comment dire, il est créé depuis. Il a été créé en joke. C'est vraiment une crypto-monnaie qui a été. Le Bitcoin a été créé pour faire une révolution technologique. Dogecoin, c'est juste une joke qui a été popularisée par Elon Musk, surtout. Donc, c'est pour ça que les gens. Plusieurs personnes qui disent que le Bitcoin, c'est. Pas le Bitcoin. Dogecoin, c'est l'argent du peuple. Moi, je trouve ça un petit peu ridicule parce que l'argent du peuple est manipulé par l'homme le plus riche sur Terre avec un tweet.
On le voit. Dès qu'il y a un tweet, la valeur monte, puis une journée après, elle va redescendre. Il y a un gros pump and dump quasiment là-dedans.
Exactement. Sur le continu, ça monte. Tu sais, comme ça pump and dump, mais ça monte. Par contre, ça va finir par crasher. C'est comme il n'y a pas vraiment de valeur à cette crypto-monnaie-là. Il n'y a pas un nombre limité comme le Bitcoin. Donc, d'être là, ça, c'est un désavantage selon moi. Puis, sur le long terme, comme selon moi, ça n'a pas devenu. Oui, ça pourrait monter à 1$. Il y a plusieurs personnes qui parlent d'1$. Puis, vu que, c'est toute une question de momentum puis une question de hype, ben, ça se peut que ça y rentre parce que le monde y croit tellement que ça va se rendre jusqu'à là. Mais après ça, si ça monte à 1$, ben, selon moi, ça peut facilement remonter, redescendre à 25 cents, 10 cents. Tu sais, oui, il y a des gens qui l'ont acheté en bas d'un sou, fait que eux autres, ils sont bons de rire. Peu importe ce qui se passe, ils vont faire de l'argent. Mais il faut penser aussi à toutes les nouvelles personnes qui rentrent dans le marché, que celui qui va acheter à 1$, ben, si ça descend à 25 cents, il a perdu 75% de son portefeuille. Donc, c'est quand même des choses que les gens doivent comprendre que oui, il y a de l'argent à faire avec les autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Mais sur le long terme, ce n'est pas toujours viable. Et selon moi, la majorité sont portées à disparaître. Surtout qu'il va y avoir de la nouvelle réglementation sur le marché. T'sais, ça commence déjà. Là. Les pays commencent déjà à implanter plus de réglementations. Des monnaies décentralisées comme le Bitcoin. Et ça, l'affaire qu'ils vont pouvoir faire, c'est mettre la réglementation au niveau des taxes, mettre la réglementation au niveau de l'achat, de la vente par des plateformes. Il faut mettre des KYC, ce qu'on appelle comme les informations. Des gens qui rentrent sur la plateforme doivent mettre leur photo de passeport, photo de permis de conduire, des trucs comme ça. Sinon, pour les monnaies qui sont vraiment, comment dire, il y a quelqu'un derrière officiellement, ben, ils peuvent attaquer quelqu'un en justice. Ils peuvent faire en sorte que cette monnaie-là soit bannie, qu'elle soit fermée. Comme présentement, il y a un recours par la SEC. Si on veut, c'est l'autorité des marchés financiers, mais là, du côté américain, eux, ils sont sur Ripple, XRP. Peut-être qu'XRP, au final, va gagner sa cause. Puis ça va être ça va être bon pour la crypto-monnaie en général. Moi, je ne suis pas trop fan d'XRP en général parce que ça ne vient pas, selon l'idéologie du Bitcoin, des crypto-monnaies, c'est un peu à l'inverse de l'idéologie parce que c'est un peu plus centralisé. C'est plus une crypto qui est en lien avec les banques. Et le Bitcoin, ben, c'est sorti un peu du système des banques. Il y a des gens qui disent que le Bitcoin va remplacer le système monétaire. Moi, je ne crois pas pantoute, honnêtement. Il faut quand même rester réaliste. Mais je crois que le Bitcoin va quand même être un atout pour probablement prendre la valeur sur le long terme, un peu comme je dis, l'ordre digital 2.0. Surtout que je crois que l'argent, l'économie, que ce soit l'argent euro, canadien, américain, peu importe, va devenir de plus en plus numérique sur une blockchain. Ils sont déjà en création. La Chine a déjà commencé à les mettre dans leur pays. Fait que si on a une économie entièrement numérique et que l'argent papier disparaît, ben, c'est logique de croire que le Bitcoin va devenir la valeur refuge, comme l'or était la valeur refuge de l'argent papier. Puis même là, depuis plusieurs décennies, l'argent papier n'est plus backé par l'or dans plusieurs pays. Le Canada, c'est le premier qui n'est pas backé par l'or. Normalement, l'argent doit être backé par l'or, mais ça donne pour. Puis comme l'argent est toujours imprimé sans à l'infini, si on veut. Je regarde juste l'argent américain. Depuis le début de la crise du COVID, il y a plus que la moitié qui a été imprimée. Tout l'argent en circulation, l'argent américain, il y a plus que la moitié qui a été imprimée depuis le début de la crise. Donc, tout ce qui a été fait depuis 100 ans, disons, environ 100 ans, ben, en une année, tu as la moitié de fait.
Ah, mais c'est ça. Tu sais, je pense que ça, déjà, juste ce point-là, ça devrait allumer des cloches aux gens ou du moins amener une introspection à bon, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est quoi de l'argent en tant que tel? Parce que tu sais, dans le fond, si les gouvernements, les banques, peu importe qui, peut en imprimer illimité, où est-ce que la valeur est placée là-dedans? Fait que, bref, c'est super intéressant. Mais tu sais, mettons, là, quelqu'un qui voudrait investir dans le Bitcoin, là, il veut acheter du Bitcoin, c'est quoi les premières étapes? Comment il fait? Faut-tu qu'il se trouve un dealer de Bitcoin? Faut-tu qu'il aille dans un guichet? Faut-tu qu'il aille dans un système Internet? Comment ça marche?
Ben, il y a trois façons. C'est soit, ben, tu les as pas mal mentionnés, mais je veux juste peut-être les plus les mentionner en détail. Tu as la pire solution, mais qui est une solution quand même efficace, mais au niveau des frais, c'est vraiment la pire solution. C'est les guichets Bitcoin. Les guichets Bitcoin, les personnes souvent vont les utiliser soit parce qu'ils ne savent pas par où commencer ou pour le test que ce soit tangible. C'est le fait que ça soit physique, qu'il y ait un guichet. Les gens, souvent, ils commencent par ça. Sauf que les frais, généralement, ils vont écrire sur la machine, c'est 5 $, 20 $ de frais standard. Mais ce n'est pas vrai, ça, parce que si tu regardes le prix du Bitcoin vendu sur la machine par rapport au prix réel du marché, il y a tout le temps un 5, 10, 15 % plus cher. Dans le sens inverse aussi, si tu veux vendre ton Bitcoin, ils vont te l'acheter 5, 10, 15 % moins cher que le prix réel. Donc, ce n'est vraiment pas la meilleure solution. Ensuite, tu as la solution des sites Internet. Les sites Internet, tu vas sur une plateforme. Au Canada, les plus connus, disons, c'est Coinbase et Binance. Moi, je ne recommande vraiment pas Coinbase. Honnêtement, ce n'est pas une bonne plateforme, selon moi. C'est une plateforme facile à utiliser pour les nouveaux, mais les frais sont élevés. Tu as beaucoup de limites des gens qui ne peuvent pas déposer, disons, plus que 250 $ par semaine. C'est quelqu'un qui va investir, disons, 10 000. C'est pas vraiment l'idéal. Et il y a manque de volume. Donc, pour une grosse plateforme, Binance, c'est mieux. Mais pour quelqu'un qui voudrait acheter simplement des plateformes, le Bitcoin directement, d'une façon plus simple, et de plateformes canadiennes, tu as Verify, tu as ShakePay, tu as Newton, tu as plusieurs plateformes. Moi, personnellement, j'utilise aucune plateforme pour l'achat ou la vente. Moi, ce que je fais, c'est vraiment ce qu'on appelle l'idéologie du Bitcoin, c'est le peer-to-peer. C'est une transaction entre personnes. Donc, tu as soit l'option de... On ne sait pas. Disons que toi, dans ta famille, tu découvres que tu as un cousin qui mine du Bitcoin. Bien, lui, il doit payer ses factures. Tu sais, s'il mine, ça coûte l'électricité. Donc, tu peux l'acheter à lui directement, vous arranger, aucun frais chacun, parce qu'il y a toujours des frais. Mais là, de cette façon-là, vous pouvez vous arranger d'acheter et de vendre sans frais. Vous achetez au prix du marché, tout le monde est content. Ou sinon, il y a du peer-to-peer, mais avec des personnes pour faire le référencement entre les deux. Des personnes un peu plus comme moi. Donc, dans ce cas-ci, c'est sûr qu'il va y avoir des frais. Mais l'avantage, c'est qu'il y a une meilleure sécurité parce qu'on sait que la personne réfère des gens de confiance. Mm-hmm. Et sinon, il y a des personnes aussi qui font des transactions directement eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont acheter ou vendre eux-mêmes en peer-to-peer. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je ne fais pas achat et vente directement. Moi, je fais juste référer un vendeur et un acheteur. Donc, c'est pas mal ça. Pour l'achat et la vente, c'est pas mal le résumé.
Puis, tu sais, pour acheter en peer-to-peer, là, c'est important d'avoir quelqu'un de confiance, avoir quelqu'un, comme tu dis, là, de référence parce que, tu sais, on s'entend, c'est des transactions cryptées, anonymes. Tu sais, c'est des codes que tu envoies vers des portefeuilles et tout. Ça doit être quand même facile là, de se faire frauder si tu as mal
vécu. Oui, il y a beaucoup de fraudes dans le domaine, honnêtement. Moi, depuis que je suis dans la cryptosphère, depuis 2017, très actif depuis le début 2018, j'ai beaucoup de gens qui me parlent de leurs problèmes, qui se sont fait hacker. Se sont fait frauder ou peu importe le problème. T'sais, souvent, les gens vont m'écrire pour que je leur trouve une solution. Je n'ai pas tout le temps la solution à tout, mais c'est sûr que moi, si je peux aider les gens, je vais le faire. Mais j'en ai entendu des histoires de fraude, mais vraiment beaucoup. Là. Des personnes qui... je ne vais pas donner de nom, c'est sûr et certain, mais c'est des personnes qui, ça fait des années qu'ils font de la fraude, puis ça leur arrive absolument rien. Je ne comprends pas pourquoi, personnellement, mais il y a d'autres personnes qui...
Juste là, quoi, 2 semaines, tu sais, dans le journal, là, il était sorti une histoire, là, c'était pas par rapport au Bitcoin, là, mais c'était par rapport à une autre crypto-monnaie de quelqu'un de la région, là, Montréal, Laval, là, je pense, qui était, là, tu sais, qui se sont mis sous enquête présentement pour comme une genre de fraude majeure, là. Je pense qu'il faut vraiment vérifier là, de où est-ce que, tu sais, c'est quoi que tu achètes, là, puis à qui tu l'achètes aussi.
Tu parles de MRS, j'imagine?
Oui, bien, c'est ça. Qu'est-ce qui était sorti dans le journal, là, c'était Exchange, là, bref, je ne me rappelle pas le nom, là, qui disait que les gens là, s'étaient fait frauder là, pour des montants.
Ben, il y a eu un pop and down. Reste à savoir c'est qui est vraiment responsable de ça. Je ne veux pas m'avancer sur ça directement, mais selon moi, c'est sûr qu'il y a fraude, ça c'est sûr et certain, mais de la part de qui, ça reste à prouver. C'est pour ça qu'il y a une enquête personnellement. Mais de toute façon, la manière que la crypto en tant que telle a été lancée, avant même le pop-and-dome, avant l'histoire, disons. C'est pas une bonne façon de le faire. Ça a été fait par des influenceurs, Snapchat, YouTube, des influenceurs qui connaissent pas tous la crypto, qui ont dit aux gens, achetez ça, vous allez faire beaucoup d'argent. Selon moi, c'est pas une bonne façon de faire les choses. Moi, personnellement, les gens doivent s'éduquer, c'est l'investissement avant tout. La nouvelle génération, ce qu'ils veulent faire, c'est beaucoup. Je fais partie de la nouvelle génération, je suis dans la vingtaine, mais la plupart, bam, dans le fond, il n'y a pas d'âge pour ça, là. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils veulent qu'on leur dise quoi acheter, puis qu'ils deviennent riches sans aucune étude. Mais au final, c'est comme autant que la personne qui a fait le pop and down est responsable, autant que la personne qui a fait aucun devoir, qui a mis all-in sur une crypto-monnaie qui ne connaît rien, les deux sont responsables selon moi. C'est l'investissement en général. Là. Il faut quand même faire nos propres devoirs, de savoir pourquoi on investit là-dedans, c'est quoi les risques, c'est quoi notre capacité de perte. C'est-à-dire que dans tout investissement, que ce soit l'immobilier, que ce soit la bourse, que ce soit les métaux, que ce soit n'importe quoi, on met de l'argent qu'on est prêt à perdre. Si vous investissez vraiment, des fois, moi, j'ai des gens qui vont m'écrire, moi, je ne donne pas de conseils dans la vie. Moi, je suis consultant, j'explique les choses, j'explique comment bien faire au niveau de la sécurité, de la confidentialité. Je peux même parler des fois de la fiscalité de base, parce que quand même, je connais la fiscalité. Si c'est poussé, je vais leur dire d'aller voir vraiment un comptable ou un avocat fiscaliste. Mais jamais je vais leur dire quoi acheter, combien investir. Jamais je vais dire ça. Puis on me le demande souvent. Des fois, quelqu'un va m'écrire, ouais, j'ai 10 000 $ à investir. J'aimerais faire au moins 50 % sur 3 mois. Ben, tu veux que je réponde quoi à ça, moi? T'sais, oui, c'est possible, je vais pas dire le contraire, mais c'est pas moi qui vais te dire sur quoi le mettre. Moi, jamais je vais faire ça, jamais je vais m'embarquer là-dedans. Puis quand t'es pas capable de le faire toi-même, tu vas perdre. C'est sûr et certain que tu vas perdre parce que même si tu mets ton 10 000 $, c'est une monnaie qui va monter de 50 %, étant donné que tu n'as pas d'expérience en tant qu'investisseur et en tant que trader, même qu'on soit à plus de 50 %, tu vas être greedy. Tu vas vouloir plus. Puis finalement, ça va redescendre. Puis tu risques de descendre à moins 50 %. Puis là, tu vas vendre parce que tu vas dire, je ne peux pas perdre plus d'argent. Fait qu'au final, tu as eu l'opportunité de faire 50 %, mais tu as fini à moins 50 % étant donné que tu t'es jamais formé. Il faut se former avant tout. Les investisseurs qui font de l'argent sur le long terme, c'est ceux qui se forment. Il y a plein de gens présentement, on est dans un bull market, on est dans un marché haussier. Fait que comme j'ai quelqu'un qui a dit ça dans nos communautés Facebook, j'ai trouvé quand même ça drôle. Même un singe aveugle peut faire de l'argent présentement. Donc, comment dire, c'est comme à part si t'es trop émotif, c'est comme il y a des corrections à chaque semaine, chaque 2 semaines, ça monte, ça redescend. Puis là, après ça, si tu vends quand ça descend, tu as perdu de l'argent. Mais sinon, en général, depuis le début de l'année, c'est une tendance haussière. Tu ne peux pas perdre d'argent si tu ne vends pas à perte présentement. Mais ça va revirer le bord un jour. Hein. On va se remettre un marché baissier, puis là, ça va descendre, descendre, descendre. Puis les gens, ils vont être aidés. C'est comme ceux qui achètent du Dogecoin, du SafeMoon ou n'importe quoi. Comment dire? Oui, ils peuvent faire beaucoup d'argent, mais tant qu'ils n'ont pas vendu, ils ne l'ont pas fait, cet argent-là. Puis l'affaire, ça monte, ça descend plus vite que ça monte. Toujours.
Ouais, c'est ça.
Toujours, toujours, toujours. Ça peut monter de 30 %. Mais ça va redescendre de 50 %. C'est vraiment c'est plus rapide dans la descente parce que les gens paniquent. Tu as un gros portefeuille qui vend, puis là, tu as plein de petits investisseurs qui paniquent, plus des robots, parce qu'il y a plein de robots dans tous les marchés financiers, il y a des robots. Fait que là, il y a des robots aussi qui sont là-dedans, puis là, tu peux voir un gros cash. Et l'autre fois, le Bitcoin, c'est quoi, peut-être 2 semaines ou 3 semaines, il est passé de 59 000 à 50 000 en 15 minutes. Puis quand le Bitcoin fait ça, ben les autres, ils font pire. Ils descendent encore plus parce que les autres, en plus de descendre en monnaie, en termes de dollars, ils descendent en termes de satoshi. Donc, ils perdent 2 fois plus d'argent que le Bitcoin en général. Le Bitcoin a repris de la forme. Là. Il est environ 56 000. Je n'ai pas trop regardé aujourd'hui. Je n'avais pas pas la tête à
En
regarder ça.
canadien, tu es à 70 000, là, en US, je ne sais pas.
Ah, moi, je regarde juste en US parce que quand tu trades, tu peux pas regarder en canadien, honnêtement. Faut, tu sais, même moi, je connais des Français qui pourraient regarder en euros, mais ils regardent en US. Parce que quand tu es un trader, tu dois vraiment suivre le US. Surtout que présentement, le US face au Canadien, le Canadien est en train de prendre la valeur. Fait que ça n'aide pas non plus à bien suivre les supports et les résistances des trading. C'est sûr que tu es un investisseur long terme puis que tu ne checkes pas en US. Tu n'as pas forcément besoin de regarder en US, là, mais sinon, pour quelqu'un qui check ça, qui regarde ça au jour le jour, tu es pas mal mieux de regarder en américain.
Puis là, il y a deux termes que tu as mentionnés que je pense que ça serait important de prendre le temps d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est. Mais avant ça, juste pour conclure, pour les risques, etc., faites attention, les gens qui écoutent, pour tout ce qui est conseils financiers, parce que, encore là, les gens qui donnent des conseils financiers, comme Gab disait, tu sais, ils ont. Des fois, ils connaissent même pas nécessairement ça comme il faut, puis ça peut induire les gens en erreur. C'est vraiment important de faire vos propres recherches aussi. Puis, petite parenthèse là-dessus, tu sais, tout ce qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas des conseils financiers, là. C'est vraiment comme c'est des opinions. On utilise l'expertise de Gab pour en connaître plus sur le sujet, mais je vous invite vraiment à rechercher davantage ou prendre des formations comme qu'est-ce que Gab disait. Fait que pour revenir au terme, là, tu parles de trading, puis tu as parlé aussi de miner du Bitcoin. C'est quoi du trading pour les gens qui ne connaissent pas ça, puis c'est quoi du minage?
Du trading, c'est quand même simple. C'est un peu comme la bourse. Dans le fond, c'est l'offre et la demande. On peut y aller, disons, du trading conventionnel. C'est que tu vas acheter, on va faire un exemple rapide. Tu achètes le Bitcoin à 10 000. Tu le revends à 20 000 en dedans d'une semaine. Ensuite, il redescend à 15 000. Tu rachètes. C'est tout le temps des achats et de la vente, toujours. Il y a plusieurs sortes de trading. Il y a du scalping. Scalping, c'est très rapide, c'est à la seconde, c'est à la minute. C'est vraiment comme tu fais un court profit, mais dans un délai très, 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 très court. Tu as du day trading, c'est des transactions du trading que tu fais à chaque jour quotidiennement. Tu as du swing trade, ça, c'est vraiment comme sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Puis tu as du holding. Il y a des gens qui utilisent le terme holding. Je ne sais pas si c'est à cause qu'on est rendu dans une génération où c'est que tout va vite. Mais tu sais, moi, dans ma tête, holding, c'est de l'investissement à long terme. L'investissement à long terme, on parle de décennies. Mais de nos jours, on dirait qu'à partir de 6 mois, tu es holder. C'est comme ça fait 6 mois que tu as investi, tu es holder. Pour moi, on parle de décennies. C'est comme les bitcoins que j'ai achetés, je les garde pour très longtemps, là. Moi, c'est vraiment de l'investissement à long terme. Oui, je pourrais en vendre puis racheter plus bas. Mais le problème, c'est qu'on ne peut jamais vraiment deviner le marché. Moi, donc, ce que je fais, c'est que j'ai une majorité de mon portefeuille qui est vraiment dans le holding. Et le reste, je fais un petit peu de trading par-ci, par-là. Je ne suis pas un trader temps plein parce que je n'aime pas ça, me rester devant mon écran à trade. Donc, je fais des trades par-ci, par-là. L'important, c'est être rentable. Puis, quand le Bitcoin, disons que la prochaine grosse correction, c'est le Bitcoin, c'est un chiffre de même, c'est peut-être, ça ne va pas arriver. Mais si ça arrive, tant mieux pour moi. D'un certain sens. Si le Bitcoin descend à 10 000 US, ben, je vais en racheter. Tout l'argent que j'ai mis de côté, ben, je vais acheter du Bitcoin. Mes Bitcoins que j'ai hold vont avoir perdu de la valeur. Tu sais, je vais me dire, comme la plupart des holders, ah, j'aurais dû vendre puis racheter plus bas. Mais finalement, c'est pas grave. Là. Sur le long terme, moi, je crois qu'un Bitcoin va facilement péter 100 000, puis c'est même très possible, honnêtement. Avec l'argent qui est imprimé quand même à l'infini, puis le transfert de valeur, il y a beaucoup de monde qui sont dans. Tu sais, la nouvelle génération s'intéresse plus au Bitcoin et la crypto en général que la bourse. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de transferts de valeur qui vont se transférer. L'argent de la bourse, de l'or ou peu importe, va aller dans le Bitcoin. Fait que moi, je crois qu'un Bitcoin, puis un marché global de comment dire, la crypto en général, je pense que ça peut faire encore un bon x10, de la capitalisation de toutes les crypto-monnaies ensemble, x10 minimum, selon moi. Puis le Bitcoin va quand même toujours rester le plus dominant. Là, présentement, il est autour de 50 % de la dominance. Ça veut dire qu'il y a 50 % de tout l'argent de la crypto qui est dans le Bitcoin. Par contre, ça peut remonter très rapidement. Il peut reprendre la dominance, puis ça veut dire que les altcoins, les autres crypto-monnaies, ils vont perdre de la valeur, puis que le Bitcoin, lui, va reprendre la valeur. C'est des cycles. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne.
Puis pour le minage.
Le minage, quand même, assez simple aussi. Ben, c'est simple. C'est un peu plus complexe, là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je vais résumer ça simple, c'est-à-dire que quand on envoie du Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto-monnaie d'un portefeuille à un autre portefeuille, ça coûte des frais. Donc, ces frais-là, ça paye les gens qui valident les transactions. C'est-à-dire que Moi, je vais t'envoyer à toi du Bitcoin. T'envoies 500$ de Bitcoin. Ça va coûter peut-être 5-10$. Oui, c'est sûr que les frais sont chers. Puis c'est pour ça que le Bitcoin. Il y a des gens qui aiment moins le Bitcoin, puis il y a d'autres crypto-monnaies qui coûtent moins cher de frais. Ça va s'ajouter au fil du temps. Mais ben, disons, je t'envoie 500, ça me coûte 5$ de frais. Ben, ces 5$ de frais-là vont être redistribués aux mineurs. Et aussi, il y a des bitcoins qui sont générés à chaque bloc. Donc, ça, c'est un peu pour ça qu'on appelle le minage, qui extrait ces bitcoins-là. Le dernier bitcoin, selon les estimations, devrait être miné en 2140, quand même dans plus que 100 ans. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai quand même une vision long terme sur le Bitcoin. Je crois qu'il va se rendre jusqu'à là. Puis, il y a des gens qui disent, ouais, mais là, un coup qui va être miné, ils vont être tous minés. Il y a plus, comme, ça vaut plus rien. Ben non. C'est l'offre et la demande encore. C'est juste qu'ils sont tous produits. Fait que là, il y a 21 millions de Bitcoins en circulation. Et c'est l'offre et la demande. Et en plus, il y a des Bitcoins perdus. Peut-être au fil du temps, il y a des gens qui vont inventer des technologies, ils vont essayer de trouver un moyen de récupérer ces bitcoins-là. Mais pour le moment, il y a des statistiques des firmes qui estiment que 20% des bitcoins en circulation sont des bitcoins perdus. C'est-à-dire que, disons que quelqu'un qui a acheté, je ne sais pas moi, il a acheté 100 bitcoins en 2012. Il a acheté 100 bitcoins, ça valait rien, il ne prenait pas trop ça au sérieux. Il a perdu son portefeuille. Là, il n'est plus capable pas en tout de récupérer son portefeuille. Là, en ce moment, il
Pauvre
doit broyer sa
personne.
vie. Il ne doit pas être content en ce moment, mais bon, ben ces 100 bitcoins-là sont disparus, ils ne sont plus accessibles, ils ne sont plus en circulation parce que, dans le fond, quand on a des portefeuilles, il y a soit que tu les laisses sur les plateformes, mais nous, on dit dans la cryptosphère, not your keys, not your coins, c'est-à-dire que ça t'appartient pas. Oui, c'est à toi, mettons que tu as un bitcoin, tu le mets sur une plateforme comme Binance ou Coinbase. Si demain, Binance ou Coinbase ferme, je ne pense pas que ça va arriver. Parce qu'on est quand même rendu assez solide comparé aux autres plateformes qui ont déjà fermé dans le passé. Exemple, au Canada, c'est Quadriga qui est vraiment reconnue comme plateforme qui a fermé, qui a fait perdre plus que 200 millions à des investisseurs. Puis ça, c'était que le Bitcoin valait rien. En ce moment, on doit parler de milliards. Dans ce cas-ci, eux autres, ils ont vraiment perdu. Mais sinon, Binance, un peu moins à risque. Mais moi, personnellement, je ne mets jamais ce que j'investis sur le long terme sur une plateforme. Je laisse ça sur ce qu'on appelle un cold wallet. Tu as plusieurs cold wallets, Ledger, c'est une compagnie française, tu as Trezor, tu as SafePal qui est nouveau, puis tu en as plein d'autres. Tu peux voir ça sur mon groupe Facebook. Tu as quand même des recherches qui ont été faites là-dessus. Ben, ça, c'est quand tu mets ton Bitcoin là-dessus, tu crées une clé privée. Généralement, c'est 12 à 24 mots. Fait que là, tu conserves ces mots-là. Puis si, disons, tu perds ton Ledger ou tu as mis ça sur une application mobile, les applications mobiles, c'est des hot wallets. Ce n'est pas des cold wallets, c'est des hot parce qu'ils sont en ligne toujours. Ils sont toujours, c'est une application, donc c'est toujours en ligne. Ce n'est pas comme un ledger que tant que tu n'es pas connecté, tu n'es pas en ligne. Quand ton ledger n'est pas connecté, tu es offline, fait que tu es moins à risque de hacking. Mais c'est tes 12 à 24 mots les plus importants. Donc, si tu perds ton ledger ou tu perds ton téléphone, c'est que tu retélécharges la même application, tu récupères ton portefeuille avec tes 12 à 24 mots. Mais si tu perds tes 12 à 24 mots, tu as tout perdu. Tu n'as plus accès à ton argent, sauf que si tu as encore accès à ton ledger ou ton application, mais je veux dire, si tu as perdu ton téléphone ou ton ledger, fait que là, tu n'as plus accès à ça. Puis en plus, tu n'as pas tes mots privés, ben là, tu as tout perdu. Puis ça, c'est pas le fun. J'en connais plein de gens, honnêtement. Juste là, quoi? 10 jours à peu près, quelqu'un m'a écrit, il avait perdu 6 bitcoins, il voulait que je l'aide à récupérer, mais. Je réponds à ça. Je peux pas faire de miracle. Il y a plein comme des affaires de même que des fois, je connais des gens qui peuvent essayer d'aider, je leur réfère, mais sinon, en général, c'est personnellement que tu as perdu. C'est plate, là. Mais tu sais, moi, ça fait quand même une couple d'années que je suis sur mon groupe, que j'essaie d'éduquer les gens le plus possible à bien sécuriser leurs affaires. Et il y a plein de gens qui m'écoutent pas. C'est comme si on est l'humain, oh, tant que ça arrive pas, ça va pas arriver, mais quand ça arrive.
Mais justement, ça m'amène à te poser la question, là. Quelqu'un qui commence là, dans les cryptos, c'est quoi les erreurs à ne pas faire là, à part perdre son cold wallet puis ses mots secrets?
Quand tu fais un transfert d'une crypto, mettons, tu veux transférer du Ethereum. Ben, arrange-toi de transférer sur un réseau Ethereum et pas sur un réseau Bitcoin. Parce que si tu transfères ton Ethereum sur une adresse Bitcoin, ben, c'est perdu. c'est pas sur la bonne adresse. Fait que ça, c'est une affaire que tu fais des transferts. Sinon, ne pas confier ton argent à n'importe qui. Ne pas suivre les gens si tu n'as pas vraiment d'éducation sur le sujet, tu n'as pas trop d'informations sur le sujet. Et je te dirais honnêtement de mettre le moins de QIC possible, de donner le moins d'informations possible. Tu n'es pas obligé de tout faire en peer-to-peer, mais je veux dire, c'est comme Desjardins. T'es rendu au Québec, Equifax ou n'importe quoi, on perd toutes tes informations personnelles. Il y a plein de gens, ils se disent, ben, justement, mes informations sont perdues. Ouais, ben, tu peux faire en sorte de ne pas doubler comme pas mettre plus de crémage sur le gâteau, tu sais, mais en moins possible des informations sur les plateformes. Mets-les seulement sur les plateformes que tu utilises quotidiennement. Tu connais des personnes, des fois, ils m'écrivent après avoir commencé à déjà faire quelques démarches. Puis là, moi, je leur dis ça, justement, que tu sais, minimise un peu ton affiche tout le moins possible avec tes informations possibles. Puis là, ils me disent, ouais, ben, j'ai déjà fait sur 7 plateformes. Je suis comme, ben, vas-tu vraiment utiliser ces 7 plateformes-là?
Mm-hmm.
Ah, on dirait que je suis revenu un petit peu plus dans la lumière.
Absolument. Mais justement, tu sais, ça, j'ai quelqu'un qui m'avait posé cette question-là la dernière fois. Tu sais, il voulait acheter des cryptos, mais là, il fallait qu'il enregistre toutes ces informations sur le site. Fait que comment est-ce qu'il peut en acheter s'il n'a pas mis ces informations? Y a-tu pas le choix de passer, exemple, en peer-to-peer ou...
Sans information, il y a quelques plateformes qui permettent d'acheter, mais souvent c'est limité. Tu ne peux pas avoir des gros montants. Souvent, ce n'est pas l'idéal parce qu'une plateforme qui se permet de faire ça, des grosses chances, ça ferme. Mais sinon, il y a le peer-to-peer. Ou comme je dis, le but, c'est pas. C'est sûr que quelqu'un qui veut acheter anonymement préfère ne pas mettre d'informations. Mais que, moi, ce que je dis en général, c'est pas vraiment. C'est plus le fait, mets pas tes informations sur cette plateforme. T'sais. Mais aller sur une. Ça va être beau. Tu n'as pas besoin d'en mettre sur toutes les plateformes. Tu crées un compte sur une plateforme, puis après ça, tu crées pas. Puis surtout, les gens, ils devraient ne pas FOMO. C'est-à-dire que avoir la peur de manquer de bateau, puis pas faire de recherche avant de faire leurs choses. C'est comme, informe-toi un petit peu avant. Là. Juste un peu. Là. Juste un peu, ça serait déjà un bon début, parce que bien des gens qui investissent sans savoir informer, faut comme. C'est vraiment, vraiment pas con. Ils mettent l'argent, puis ils pensent devenir riches. Ils pensent à se promener en Lamborghini demain. Là. Ils sont déjà en train de magasiner la couleur de leur Lambo, mais ils ne sont pas vraiment informés plus qu'il faut. Puis ces gens-là, généralement, vont finir à perdre sur le long terme. T'sais, oui, ben, ils vont faire un bon coup. Ils peuvent acheter une crypto à doubler. Puis là, ils prennent ses profits. Fait que là, concrètement, il a fait de l'argent. Mais là, c'était facile. J'ai réussi à faire x2, x3 sans connaissance. Ben, je vais continuer, je vais le faire sur une autre affaire. Puis là, finalement, l'autre crypto va faire moins 90% ou elle va juste disparaître XXCam. Puis ça va juste tout perdre. C'est comme ça. Moi, j'ai vécu la bulle de 2017, puis je n'ai pas vécu extrêmement parce que je n'avais pas mis beaucoup, puis j'avais été majoritairement Bitcoin. J'ai compris dès le début que c'était préférable d'être le plus possible en Bitcoin. Ben, j'ai des amis qu'eux autres qui ont mis des plus gros montants, puis ça a fait x100. Genre, il faut vraiment x100 leur portefeuille. Mais après ça, la bulle a pété en début 2018, puis ça a commencé à cracher. Ah, ça va remonter. Finalement, ils ont perdu 90% de leur profit. Là, c'est comme tu as quand même sorti à profit. Là, il y a plusieurs qui n'ont pas sorti à profit parce qu'ils n'avaient pas assez fait de profit. Eux autres, ben, tu as quand même perdu 90% de ton profit. C'est pas nice. Hein. On fait un exemple, là, quelqu'un qui a mis 10 000 qui monte à, je sais pas moi, 1 million, puis ça remonte à 50 000. OK, tu as fait 40 000, mais tu avais 1 million, là, tu sais. C'est des choses que j'en ai vu plein. Puis là, ça va réarriver. Mais ces personnes-là, ils risquent d'être un petit peu plus alertés, prendre plus de profit. Mais la nouvelle vague, eux autres, ils vont faire la même affaire que ces gens-là de 2017. Ils vont acheter, ils vont faire du profit, ça va recommencer à descendre. Ils vont hold, c'est des soldats, ils vont hold. Puis finalement, ben, ça va cracher total. Puis ils vont avoir perdu leur profit ou juste tout leur argent. Mm-hmm. Puis il y a plein de cryptos qui vont juste disparaître aussi. Tout simplement disparaître, c'est des pop and down. Tu peux voir des cryptos avec des volumes vraiment minimes. C'est comme il y a un volume de 25 000, 100 000, peut-être 500 000 en une journée. C'est pas gros. Il y a des cryptos qu'eux autres qui ont 2 milliards en volume par jour. C'est notre game. Fait que là, quelqu'un qui il voit une crypto monter de 100% de journée, mais il y avait 25 000 dedans. C'est rien mettre 5 000. Toi. Tu vas mettre 10 000 dessus, puis pouf, ça va tout de suite recracher, puis finalement, tu as perdu de l'argent. C'est vraiment, c'est toutes les affaires comme ça qu'il faut vraiment s'informer. C'est pour ça que, selon moi, la plupart des gens qui débutent devraient vraiment, vraiment, mais vraiment commencer par le Bitcoin. C'est sûr que le Bitcoin, il est moins le fun à voir. Tu vois le Bitcoin, tu te dis, ouais, il rend du cher, hein? Il a déjà fait pas mal de profit. Puis tu te dis, ouais, l'autre affaire a 1 cent, l'autre affaire a 50 cents, a 1 piastre. Il y a des chances de monter. Oui, oui, je suis 100% d'accord, il peut encore monter. Mais sur le long terme, tu prends tes profits à monnaie, puis arrête de jouer, puis comprends que tu dois garder un pourcentage en Bitcoin. C'est comme la bourse, les penny stocks. Tu ne vas pas all-in d'un penny stock. Il y en a qui ne trade que les penny stocks. Mais c'est 1% de la gang qui font de l'argent. Le reste, ils vont tous se péter la gueule, là, en bon québécois. C'est comme avec les petites cryptos. Ils vont finir par de l'argent. Puis, moi, je suis ce qu'on appelle un Bitcoin maximaliste. C'est de même qu'on dans la cryptosphère, on appelle des gars comme moi, des gars qui pensent que le Bitcoin, c'est ce qui est le plus important. Il y a deux types de Bitcoin maximalistes. Il y a ceux vraiment qui sont plus ceux qui... On dit des bitcoins maximalistes toxiques. C'est-à-dire qu'eux autres, tout ce qui n'est pas bitcoin, c'est de la merde. Puis on ne devrait pas toucher à ça. Moi, personnellement, je crois qu'il y a certaines crypto-monnaies qui peuvent avoir de l'avenir, mais j'accumule du bitcoin. Je vais trade une autre crypto-monnaie dans le but de faire des profits et d'accumuler plus de bitcoin. Donc, puis je suis conscient que 95% des crypto-monnaies et plus sont voués à l'échec. Il reste 5 % mais il faut que tu le trouves, le 5 % qui va être bon. Ethereum va l'air très bien parti. Il y en a d'autres. Je vais pas trop m'embarquer parce qu'après ça, les gens vont dire ah, ben là, lui, il a dit que cette crypto-là est bonne, fait que là, il va vouloir l'acheter. Puis moi, je me concentre plus sur le Bitcoin. Sur le long terme, moi, je crois que le Bitcoin, c'est comment dire, il y a des jeunes qui ont 18, 20, 22 ans, ils vont dire que c'est la crypto des boomers. Fait que moi, je suis un boomer. J'ai même pas 28 ans. Je suis un boomer. Mais. Oui, comment dire, c'est moins excitant parce que le profit, tu sais, le Bitcoin, dans la prochaine année, il peut faire peut-être x2, ça va être bon, tu sais, x2. Les autres vont faire du x10, x100. Sauf que je préfère un x2 un peu plus stable et sécuritaire qu'un x100 que finalement, ça peut s'enverrer de bon puis tu commences à moins 90%. Donc, mais c'est sûr que c'est bon de spéculer, mais ça dépend aussi. Il y a des gens qui mettent 2 000 $, ils mettent sur une seule crypto-monnaie qui n'est pas le Bitcoin, puis ils pensent devenir riches. C'est pas de l'investissement, c'est du gamble. Donc, personnes qui, comment dire, sont en bourse, sont dans l'immobilier, sont dans plein d'affaires. Puis l'argent qu'ils mettent dans le crypto, c'est leur investissement plus à risque, qui va un peu plus comme du gamble. Fait qu'eux autres, c'est un petit peu plus normal qu'ils aient joué dans des cryptos un peu plus volatiles. Mais il y a des personnes qui sont, comment dire, le Bitcoin, c'est leur fonds de pension. C'est de même qu'ils le voient. Ils voient le Bitcoin sur le long terme. Ils ne veulent pas spéculer vraiment. Ben, c'est de la spéculation pareil parce que tu crois que le Bitcoin va monter sur le long terme, mais c'est de la spéculation un peu moins court terme, un peu moins hardcore, si on veut. Donc, il y a des gens qui vont acheter du Bitcoin vraiment à chaque paye, puis ils pensent que ça va être la retraite parce qu'ils pensent que le Bitcoin va valoir plus que l'argent à la banque, à la bourse. Eux autres, si ça vaut plus que l'argent à la banque, ils diraient là, même si c'est 1% de plus, c'est déjà mieux. Pour eux autres, c'est déjà mieux d'être dans le Bitcoin puis pas perdre d'argent parce que la valeur de l'argent, on parle du pouvoir d'achat. Il y a l'inflation, juste l'immobilier, il y a une bulle présentement. Puis honnêtement, il y a des gens qui pensent qu'elle va péter. Moi, je pense. Normalement, je serais le genre de personne qui penserait que oui, elle va péter, cette bulle-là. Mais honnêtement, je pense de moins en moins qu'elle va péter parce que c'est l'offre et la demande. Le prix du bois augmente, le prix des matériaux augmente. Puis il se passe quelque chose dans le monde actuellement. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans aujourd'hui parce que. Comment dire, on va utiliser le terme complotiste, sinon, moi, je dirais juste deux mots que les gens devraient s'informer, juste s'informer un minimum, juste aller lire dessus, c'est le Great Reset. Le reste, faites ce que vous voulez avec les puces 5G puis des affaires de même, là. Moi, je n'embarque pas dans ces délires-là, c'est un petit peu trop poussé pour moi, mais le Great Reset, c'est quelque chose de concret. Donc, peut-être aller un petit peu lire là-dessus. Bon, pour revenir, dans le fond, l'argent parle de la valeur, fait que le Bitcoin en tant que tel, c'est un moyen de se mettre à l'abri de l'inflation. Puis il y a des personnes comme moi, et on n'est pas très nombreux, mais on est là, on est en Bitcoin. Donc, c'est quand ton investissement général, max, comme le plus, est dans la crypto, ben là, tu dois te mettre à l'abri d'une certaine façon. Fait que tu ne vas pas mettre tout ton argent dans ce qu'on appelle des shitcoins. Il faut que tu en laisses un peu dans le Bitcoin pour être un peu plus à l'abri. Parce que moi, le Bitcoin, là, comme il est 56 000 quelque chose en US, Et demain, il y a 50 000. Ça ne m'empêche pas de dormir. Hein. Cet argent-là, je n'ai pas besoin. Et je sais que dans un an, deux ans, trois ans, le Bitcoin va être plus cher. Fait que ça m'énerve pas vraiment. Mais honnêtement, quand je vois une crypto-monnaie que j'ai aucun. C'est pour ça que je les trade et je les achète pas. Moi, je fais vraiment du trading sur les autres. Parce que si j'achète une monnaie, un exemple Dogecoin, j'achète Dogecoin puis à 30 cents, puis elle descend à 15 cents, moins 50 %. Ah, je ne suis pas confiant en tout, moi. Je ne suis pas confiant. Le Bitcoin descend à 50
%. Tu peux aller faire une sieste, te réveiller, genre, puis avoir tout perdu, là, tu sais.
Ah, mais c'est ça, le Bitcoin, c'est pas aussi extrême. Puis le Bitcoin, s'il descend de 50 %, je suis très confiant qu'il va remonter. La seule affaire que je vais me dire, c'est « Ah, j'aurais dû vendre avant, puis racheter plus beau. » Mais sinon, les autres cryptos, quand tu descends de 50 %, moi, je suis pas confiant en tout, là. C'est parce que, oui, ça peut remonter, je suis 100 % d'accord, mais ça peut être aussi le coût. Du 50 % le dernier, ça peut être le bear market qui embarque, puis que c'est fini, là. C'est comme, ça remonte plus.
Bye-bye.
Puis quand c'est bye-bye, ben, justement, tu as le réflexe de. Tu as deux réflexes. Soit que tu te vends à moins 50 %, puis là, boum, t'as déjà perdu 50 %, c'est fini. Ou tu as le réflexe de hold en disant, ah, ça va remonter, puis finalement, boum, c'est moins 75 %. dans l'ancien bear market, on peut. Pendant le Bitcoin est descendu, il me semble. Vite fait, j'ai pas regardé, là, mais il me semble, le dernier, c'était 92%, quelque chose de même. Mais les autres ont descendu de 99,9%. C'est comme ta crypto avait absolument plus rien. Il y en a beaucoup qui ont remonté. Il y en a plusieurs qui n'ont pas remonté. Mais moi, je pense que le marché des cryptos va beaucoup, beaucoup, beaucoup évoluer dans les prochaines années. Beaucoup plus de réglementation. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui vont disparaître. Vraiment, plusieurs qui sont plus là. Parce qu'il y en a qui ont. Aucune utilité. Oui, comme je dis, il y a 5 % mettons, qui peut avoir de l'utilité. Binance Coin. Binance Coin est utilisé dans la plateforme de Binance, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour minimiser les frais de trading pour la smart chain. La blockchain, comme il y a plusieurs utilités. Fait que celle-là, on peut se dire, bon, elle fait partie des cryptos qui est à regarder. Je ne suis pas osant d'investir dans ces crypto-monnaies-là, mais je dis que contrairement à un autre crypto qui va être. Je suis tanné de prendre tout le temps les mêmes exemples, Dogecoin et SafeMoon. J'essaie de trouver pas un exemple toi, d'une crypto qui ne sert à rien pendant tout.
Écoute, c'est les deux qui me viennent le plus en tête. Là. Mettons, je ne serais pas sécuritaire de holder du SafeMoon.
Non, c'est ça. Puis là, il y a ça dans les communautés, là, ça m'a rendu un petit peu irritable dernièrement. Fait que je me suis un petit peu. Sortir un petit peu des communautés, puis je suis très actif, parce que moi, je suis vraiment sur Facebook. Les gens, ils vont travailler à leur job. Ben moi, ma job, c'est dans mon groupe Facebook, si on veut. Fait que, mais là, j'ai quand même sorti un petit peu parce que tu as des petits gars de 19, 20, 21 ans, 22 ans, qui pensent avoir réinventé la roue. Là, ils ont mis 500$, 1000$. Puis là, ça a monté à 10 000, 20 000. C'est bon, très bon profit. On va pas se cacher. C'est un très bon profit, sauf qu'ils n'ont pas vendu. Qu'ils ne l'ont pas fait concrètement, ce profit-là. Puis si ça recrache, ben, ils vont l'avoir perdu. Mais ça, c'est pas le problème. C'est leur investissement, ils font ce qu'ils veulent avec. Mais le problème, c'est qu'ils vont aller dire partout, c'est écoute, partout, 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 d'acheter du SafeMoon. Mais le problème, c'est qu'ils sont en crypto depuis quelques semaines. Ils ne connaissent rien là-dedans. Et ils n'ont pas de background d'investisseur. T'sais, comme moi, je ne suis pas un gros background d'investisseur. Et à côté de bien des personnes, je ne suis pas crédible à côté de ceux que le gars qui a 60 ans qui vaut 50 millions, 100 millions. Je ne suis pas crédible, moi, pas en tout à côté de ce gars-là. Mais il reste que, au moins, moi, je suis conscient que, en général, comment dire, les gens ils doivent. Mieux faire leur recherche. Puis c'est pour ça que moi, je suis plus Bitcoin parce que c'est moins à risque que les petites crypto-monnaies. Parce que, comme je dis, la plupart des gens, ils ne font pas de recherche, ils n'ont pas de base en investissement. Puis là, ils vont mettre leur argent, oui, puis ils vont faire du profit, oui, mais ils ne vont pas cash out au bon moment. C'est ça le problème. Ils ne vont pas cash out au bon moment. Ils vont finir perdant dans 95% des cas. Donc, parce que tout ce qui monte vite redescend vite. Hein. C'est ça l'affaire. Ta crypto qui a fait 1000% en un mois, hein. C'est un fois 10 en un mois. Ben, elle peut perdre 90% le prochain mois. Là. Puis au final, la 95% des gens qui ont embarqué, ils sont perdants. Il y a des gars qui ont embarqué direct, direct, direct au début dans la communauté. D'autres, ils promotent ça, ils sont tout contents parce qu'il y a plus que du monde qui achète, plus que qui vont faire de l'argent. C'est un peu la Ponzi style. Mais au final, eux autres, ils n'ont pas de chance de perdre à part si ça ferme. Mais moi, je pense beaucoup aux gens en général qui investissent. C'est un peu comme MRS. Là. Les gens investissent sans faire leur recherche. Il faut faire un minimum d'efforts, c'est quand même important.
Exact. Cool. Ben écoute, c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant là, comme discussion. Si les gens là, ils veulent faire affaire avec toi, ils veulent se former, ils veulent rentrer dans ton groupe, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
Moi, je suis principalement actif sur Facebook. Je vais peut-être transférer graduellement parce que Facebook devient un petit peu plus censuré sur Bitcoin et la crypto en général. Mais pour l'instant, c'est vraiment sur Facebook. Donc, soit mon compte personnel directement à mon nom ou ma communauté Facebook qui est Crypto World Québec. Je prononce pas très bien toujours, là, mais bon, c'est vraiment une communauté puisque on est presque à 21 000 membres. Majoritairement des Québécois. Il y a des gens d'un peu partout, ça c'est clair. Il y a peut-être 10% qui viennent d'autres pays, l'Europe, l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Mais c'est ça, principalement une communauté québécoise. Pas obligé de rentrer pour spécifiquement faire affaire avec moi, ça peut simplement pour s'informer. C'est vraiment une communauté qui est plus. La formation, c'est plate parce que la crypto, c'est décentralisé, mais l'information, c'est vraiment un petit peu plus censuré, si on veut, parce que je filtre. Je ne laisse pas tout le temps les mêmes questions se répéter. Donc, mon groupe est vraiment un groupe qui fait en sorte que tu vas apprendre les choses, puis pas toujours, toujours, toujours voir les mêmes réponses. Comment j'achète SafeMoon? Ça, dans mon inventaire de publications en attente, là, parce que moi, je dois les approuver ou les refuser avant qu'elles soient sur le groupe, ben, juste ce genre de publication-là, je peux, Dogecoin, SafeMoon, peu importe, je peux en avoir 50 par semaine. Fait que ça ferait en sorte que si je ne filtrerais pas, ben, tu verrais 50 fois par semaine comment je fais pour acheter Dogecoin ou SafeMoon. À un moment
Il
donné,
faut
ça vient
savoir
à
la
l'heure.
qualité là, des groupes là, quand il y a ça là-dedans.
Ouais, ben, il y en a qui ça, ils ont pas de filtre. Ben, moi, j'ai quand même un bon filtre. Fait que, c'est sûr que justement, le groupe va ressembler plus à un groupe de Bitcoin maximaliste, mais ce n'est pas vraiment le cas, honnêtement. Je dois être un des. On est peut-être 5 ou 10 dans 20 000 personnes qu'on est vraiment actifs en tant que Bitcoin maximaliste. Le reste sont des personnes. Ce qu'on appelle dans la communauté des shitcoiners, mais tu as différents degrés. Tu as celui qui aime bien Ethereum, qui est quand même une crypto qui a fait ses preuves, versus celui qui est très bien raide sur Dogecoin. Il y a une différence entre vouloir faire de l'argent sur Dogecoin et vraiment vendre sa maison pour acheter du Dogecoin. Il y en a qui sont vraiment poussés à. C'est comme les autres Dogecoin, ça va, un Dogecoin va vouloir 300 $. Ça ne vaut même pas une
J'adore.
pièce. Ça.
C'est des
C'est
gens
juste avec le fait.
optimistes
Hey, c'est
et courageux.
sont pas, comment dire, c'est pas être, comment qu'on dit ça, être confiant. C'est carrément vivre dans un monde de licorne.
Génial. Fait que si vous avez aimé le podcast sur le Bitcoin, la crypto, assurez-vous de vous abonner. Puis écoutez aussi les autres entrevues. Si jamais vous voulez me suivre plus personnellement, Philippe Massicotte sur Facebook, Phil Massicotte Instagram. Fait que, ben, encore une fois, merci Gab pour l'entrevue. C'était
Un
vraiment.
plaisir, merci à toi de m'avoir invité.
Yes, sir. Fait que je vous dis tous à bientôt.